Les choses qu'on vous rappelle le dimanche, peut-être. Mais quelque part, vous vous sentez loin de Dieu. Quelque part, vous vous demandez si c'est tout ce qu'il y a dans la vie chrétienne. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Peut-être que c'est votre impression. Mais ce matin, j'ai de bonnes nouvelles. Ça n'a pas besoin de rester comme ça. Dieu veut avoir une relation pleine de vitalité avec vous. Il veut que votre vie avec lui, ça soit quelque chose de merveilleux, d'enthousiasmant. Pas quelque chose que vous faites par habitude, mais quelque chose que vous faites parce que c'est vital dans votre vie. C'est quelque chose aussi nécessaire que l'air que vous respirez. Et ce que je veux que vous sachiez ce matin, c'est que c'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu désire pour vous. Et nous allons voir dans notre passage que dans Josué 5, que pour pouvoir conquérir le territoire que Dieu a pour nous, il y a des choses préalables à faire. On pourrait intituler le message aujourd'hui « Consécration avant la conquête ». Vous vous souvenez que les enfants d'Israël avaient tourné en rond dans le désert avant d'arriver finalement en terre promise. Nous avons vu la dernière fois ensemble que ils avaient enfin finalement traversé le Jourdain. Nous avons rappelé qu'en fait, ce qui est merveilleux lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, c'est de voir ce que les événements du passé représentent dans notre vie d'aujourd'hui. Nous avons rappelé que la libération d'Égypte, des Israélites, leur libération représentait en quelque sorte le baptême dans l'eau. Où nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Mais une fois que nous sommes chrétiens, que nous le recevons dans notre cœur, nous pouvons continuer à tourner en rond sans voir beaucoup de fruits dans notre vie. Et c'est ce qui s'est passé avec les Israélites qui ont tourné 40 ans dans le désert, en rond. Par manque de foi. Et puis nous avons vu comment la traversée du Jourdain, ça représentait en fait l'entrée dans la vie avec l'Esprit Saint. On peut même voir le passage dans le Jourdain comme le baptême selon le Saint-Esprit, où nous entrons dans cette relation avec l'Esprit Saint qui vient sur nous pour faire de nous des témoins pleins de force et de succès en termes de fruits. Et le chapitre 5 commence par le verset qui dit, Ouais. Que lorsque tous les rois des Amoréens qui sont au-delà du Jourdain, à l'ouest, et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec le cours du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils aient passé le cœur leur manqua et ils perdirent le souffle devant les Israélites. Et donc vous vous souvenez que Josué était celui qui pouvait amener les Israélites en terre promise. Moïse, qui représentait la loi, ne pouvait pas emmener les enfants de Dieu en terre promise. Et de la même façon, Moïse, la loi, le légalisme, ne peut pas nous emmener dans la vie selon l'Esprit. La vie de victoire, c'est Jésus qui doit nous emmener, notre Josué qui doit nous emmener dans cette terre de victoire, dans cette terre promise. Et vous souvenez que lorsque les prêtres avaient mis les pieds dans l'eau, le Jourdain s'était arrêté en pleine saison des crues et le peuple d'Israël avait pu franchir ce Jourdain. Et les habitants de la terre promise, les païens, les cananéens, étaient complètement paniqués. Parce qu'ils savaient, ils avaient entendu parler du grand Dieu des Israélites qui les avait libérés d'Égypte en ouvrant la mer des joncs, la mer rouge, qui leur avait donné la victoire sur des ennemis au-delà du Jourdain. Et maintenant, voici ces 2 à 3 millions de personnes qui arrivent, qui franchissent le Jourdain et qui viennent prendre possession de la terre promise. Et ils tremblent. De la même façon, l'ennemi tremble lorsque nous marchons derrière Jésus-Christ. Lorsque nous venons dans la puissance du Saint-Esprit prendre conquête des terres qui appartiennent à Dieu. Quand nous parlons de Dieu à nos voisins, à nos familles, à nos concitoyens, les païens et leur roi représentent Satan, le diable, et ses troupes angéliques. Si quelqu'un peut éteindre le... Satan est toujours là pour essayer de distraire. Et donc, lorsque nous rappelons à Satan que nous venons au nom de Jésus-Christ, rempli d'Esprit Saint, que nous lui rappelons que Jésus a conquis à la croix, ils perdent le souffle devant eux, devant nous. Nous n'avons plus à être esclaves du péché ni de Satan. Il est dit que les anges de Satan tremblent à son nom. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs de toute puissance. On se dirait, maintenant, ils viennent de passer le Jourdain. Les ennemis sont paniqués. C'est le moment pour eux d'attaquer, de prendre Jéricho et toutes les villes fortes tenues par les Cananéens, par les païens. Mais Dieu a d'autres plans. Il est dit dans Ésaïe 55, verset 9, que « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Et donc, Dieu a des plans différents de ceux que les Israélites ont. Au lieu de les laisser entrer et conquérir tout de suite, il va leur demander d'être patients. Il va leur demander de se consacrer avant d'attaquer. Est-ce que vous êtes impatient? Ou est-ce que je suis le seul d'ici à être impatient? Quelqu'un faisait remarquer que bien souvent, nous sommes plus énervés par une file d'attente à la banque ou au magasin que par ce qui peut se passer dans le tiers-monde, par les massacres qui peuvent se passer, les génocides qui peuvent se passer au bout du monde, ou pas loin de nous. Mais par nature, nous sommes impatients. Je suis très impatient. Il y en a qui sourient, qui me connaissent. La patience est un des fruits de l'esprit. Il va leur dire qu'avant d'attaquer, il va falloir trois choses. Avant de nous utiliser, Dieu veut s'assurer que notre cœur est au bon endroit. La maturité dans la vie chrétienne prend du temps. C'était justement merveilleux d'être auprès de ces pasteurs qui sont pasteurs depuis une trentaine d'années. Ou d'être auprès de chrétiens qui sont chrétiens depuis 50, même 60 ans, il y en avait un. De voir cette sagesse, cette plénitude spirituelle, et de réaliser que ça vient avec le temps et un désir d'avancer avec le Seigneur. Quand on réalise qu'il faut être patient, souvent notre tendance est de dire « Seigneur, donne-moi la patience. » Et on a presque envie d'ajouter « Mais Seigneur, donne-la-moi tout de suite. » Et la vie chrétienne, j'aimais bien, un auteur disait que la vie chrétienne, c'est une longue obéissance dans une même direction. C'est d'être toujours garder le cap. Quoi qu'il arrive. Et de savoir qu'à la fin du voyage, cette maturité sera là. Nous sommes tellement pressés de faire quelque chose pour le Seigneur. En fait, avant que nous puissions faire quelque chose pour le Seigneur, il veut que nous soyons quelque chose pour lui. nous voulons faire, il veut que nous soyons, il veut que nous préoccupions d'être. Être les instruments qu'il désire. Et pour cela, il va parler de trois éléments. Il va parler des versets 2 à 8 de la circoncision du cœur. Nous allons lire ensemble ces versets 2 à 8. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et pour la seconde fois, circoncis de nouveau les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites près de la colline des Aralotes. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte, on n'avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition du contingent des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, pays découlant de lait et de miel. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place. Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis du fait qu'on ne les avait pas circoncis en route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Circoncision. C'est bien sûr la circoncision physique dont il était question. Sans entrer dans les détails, vous savez qu'il s'agit de l'ablation du prépuce des hommes. Excision of the flesh of man's penis, pour être précis. Mais c'était un signe. C'était un signe qui avait été institué par Dieu avec Abraham. C'était un signe de l'alliance faite entre Abraham et le peuple juif, entre Dieu et le peuple d'Abraham, pardon. Ça avait été institué dans la Genèse, Genèse 17. Genèse 17, 10, il était dit « Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous, que j'établis avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Et puis plus loin, il disait que tout mâle qui n'était pas circoncis serait considéré comme n'appartenant pas au peuple. Genèse 17, 14. Et encore une fois, l'Ancien Testament, c'est la bande dessinée de Dieu. Dieu, pour nous parler, peut utiliser les images historiques de l'Ancien Testament et la circoncision physique, c'est quelque chose de très graphique qui peut frapper l'imagination, qui fait très mal physiquement aussi, mais qui a une signification pour le Nouveau Testament et pour nous aujourd'hui, et qui la circoncision, en fait, c'est la circoncision dont il est question dans le Nouveau Testament, c'est la circoncision du cœur. Et physiquement, la circoncision, c'est l'enlèvement de chair. Et la circoncision du cœur, c'est enlever cette vieille nature qui est en nous. que la Bible appelle la chair, notre vieille nature de pécheur. Et déjà dans l'Ancien Testament, il est question de circoncire son cœur. Deutéronome 36, verset 6 du chapitre 30, disait « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » La circoncision du cœur était opposé au raidissement de la nuque. Having a stiff neck. Dans le sens où devant Dieu nous pouvons être dociles ou nous pouvons être rebelles. Et circoncire son cœur, c'est se consacrer à Dieu et être docile sous son influence. Et donc c'est vrai que lorsque l'Éternel, verset 2, adresse la parole à Josué, ça doit être une grande surprise pour Josué. Il est là prêt à sauter sur les Cananéens, à aller conquérir Jéricho. Ça fait longtemps qu'il attend. C'était l'un des deux espions qui 40 ans plus tôt avaient été voir les villes fortifiées des Cananéens et qui avaient dit avec Caleb, c'est sûr, les obstacles sont incroyables, mais avec Dieu, c'est pas de problème. Et là, ils viennent de franchir le Jourdain. Tout le monde est plein d'énergie, plein de zèle, plein d'attente. Dieu lui parle. Il entend, fais-toi des... Il doit dire, oui, on va faire des épées, non, des couteaux de pierre. Et là, ça doit être un choc pour lui. Mais c'est un choc salutaire, parce que par là Dieu va lui montrer que si leurs cœurs ne sont pas prêts, c'est pas la peine d'aller en terre promise. Les Israélites avaient été circoncis, la première génération avait été circoncis par Moïse et Josué, mais les parents qui avaient tournés en rond dans le désert n'avaient pas circoncis leurs enfants. Et ça doit nous parler aussi. Si nous n'avons pas des cœurs tendres devant le Seigneur pour le servir, on ne peut pas s'attendre à ce que nos enfants aient aussi le cœur de le suivre et de le glorifier. Pour nous parents et pour nous futurs parents, nous devons réaliser la responsabilité que nous avons auprès d'eux. Si vous avez déjà des enfants, vous savez qu'ils sont très rapides à détecter votre hypocrisie. C'est formidable quand on est pasteur d'avoir des enfants. Parce qu'ils vous font marcher sur la ligne droite. Dès qu'on dévie un peu, ils vous sautent dessus. Et c'est une bonne chose que Dieu. Mais d'une façon générale, Dieu ne peut pas déverser ses bénédictions sur votre vie si votre cœur n'est pas tendre devant lui. Même ses bénédictions passées, elles peuvent se transformer en occasion de chute. C'est C'est-à-dire qu'on peut se dire, oh, il y a 10 ans, c'était merveilleux ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et cette victoire dans le passé, ça devient votre idole. Une idole impuissante. Ce que Jésus veut avec vous, c'est une relation maintenant. Si votre relation s'est refroidie avec lui, il ne veut pas que vous pensiez à comment c'était merveilleux quand j'étais baptisé. Non, il veut que votre relation reprenne toute sa force, toute sa spontanéité maintenant. Et donc, ce que Dieu demande à Josué, c'est de préparer des scalpels, en quelque sorte, bien aiguisés. Et pour cette opération, il faut un chirurgien habile. On voit que c'est Josué en personne qui va être responsable de ces circoncisions. Et comme je voulais encourager, je vous ai encouragé à le faire, j'ai essayé de penser un peu en termes de nombre. On pense que sur les 2 à 3 millions d'Israélites, il y avait 600 à 700 000 hommes en âge d'être d'âge adulte. Je ne sais pas combien de temps prend une circoncision. Mais en imaginant qu'il aille très vite, 1 minute par opération, il aurait fallu 100 000 heures, soit près de 3 ans de travail. Donc on peut être sûr qu'en fait il a eu de l'aide pour faire ce travail. Parce que ça n'a pris que quelques jours. Pour nous, c'est le Saint-Esprit qui est le chirurgien. C'est lui qui va venir nous montrer les mauvaises habitudes. Qui va nous montrer les idoles dans notre cœur. Alors bien sûr, ça ne va pas être des petites statuettes en bronze ou en or, mais ça va être tout ce que nous plaçons en priorité dans notre vie. Ça peut être nos études, ça peut être notre carrière, ça peut être même nos enfants, ça peut être la recherche de l'argent, du succès, ça peut être les relations avec des hommes ou des femmes, toutes ces choses qui prennent la première place, qui doivent revenir à Dieu, sont des idoles. Et le Saint-Esprit, il utilise aussi des instruments tranchants. La parole de Dieu et la croix. Lisons ensemble Hébreux 4, 12. C'est page 248 dans la Bible à la colombe, dans le Nouveau Testament, donc la deuxième partie. Il est dit là que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur.
« joins another, judges thoughts, attitudes of the heart.
Ça, c'est la parole de Dieu dans son ensemble, logos.
And this is the word of God as a whole, logos.
Mais il est aussi question d'une autre parole de Dieu, Éphésiens 6, 17. C'est page 222 dans la Bible à la Colombe, où il est dit de prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dont il est question ici, c'est un autre mot en grec, c'est le mot rhéma, pas le mot logos. Et dans ce sens-là, ça va être une parole particulière, un verset particulier que vous allez lire, qui va vous toucher. Ça va être un verset que quelqu'un va vous dire, va vous donner. Mais dans les deux cas, c'est la même idée, que cette parole de Dieu ou ce verset, la parole dans son ensemble ou un verset en particulier, c'est quelque chose qui va percer votre cœur. Le Saint-Esprit, il nous donne du discernement, il nous montre si nous sommes sincères. Dans notre passage, que verset 8, après avoir été circoncis, tout le peuple reste sur place. Parce que ça fait très mal, la circoncision. Mais c'est nécessaire. Et de la même façon, lorsque Dieu nous montre des choses qui vont pas dans notre vie, ça peut faire très mal. Mais en même temps, ça fait du bien. Il est dit dans les paroles du prophète Osée, Osée 6:1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. C'est au début des petits prophètes, après Daniel. Osée. Il faut faire confiance à Dieu. Et c'est un bon endroit que de dire: Seigneur, je sais que ça va faire mal, mais je sais que ça va me faire du bien en fin de compte. On nous a donné un livre, entre autres, à la conférence, dont on pourrait traduire le titre: Votre Dieu est un Dieu sans danger. Dans le sens où il devrait être un Dieu dangereux. Et vous vous êtes assuré que le Dieu auquel vous parlez, c'est un Dieu qui ne va pas vous demander trop de choses. Et quelque part, ce livre explique, en fait, nous avons tendance à... Nous disons que nous voulons être près de Dieu, mais en même temps, nous savons que si nous approchons trop près, il risque de nous demander des choses que nous n'avons pas avoir envie de faire. Il va peut-être nous demander de nous humilier devant lui, devant les hommes. Il va peut-être nous demander de confesser des choses, de demander pardon pour des choses que nous n'avons pas envie de demander, pour lesquelles nous n'avons pas demandé pardon. Et quelque part, nous avons une peur de Dieu qui n'est pas la peur qui est le commencement de la sagesse. Et nous avons peur justement qu'il prenne son scalpel, la parole de Dieu, et qu'il commence à couper des choses à l'intérieur de notre vie. Et de la même façon, la croix, c'est aussi un autre instrument tranchant. Nous sommes invités à vivre non en devant des choses à la chair, mais de faire mourir les actions du corps. Paul, dans Romains 8, nous invite à mortifier les actions de la chair. Lorsque nous avons des tentations, des péchés dans notre vie, nous devons les amener à la croix. Demander pardon à Dieu. Être prêt à nous humilier devant lui. Dans Colossiens 3, Paul disait: faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, le désir de l'argent qu'on idolâtre. C'est Colossiens 3, 5. Nous avons rappelé que Paul disait que nous sommes crucifiés avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ma vie présente dans la chair. Et ma vie présente dans la chair, c'est Galates 2:20, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et donc, quelque part, c'est une position en Dieu, en Christ. Si nous avons reçu le Seigneur, si nous sommes convertis à lui, nous sommes crucifiés avec lui. Peut-être vous dites: oui, mais moi, ma vie, elle est pleine de péchés, je n'ai pas l'impression que c'est pas lui qui vit en moi, c'est toujours moi qui commande. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une différence entre notre position spirituelle, notre position devant Dieu, comment il nous voit crucifié avec Christ. Et notre état, notre condition spirituelle. Ce que nous vivons jour après jour, notre expérience sur terre. Et en fait, ce que Dieu veut nous dire: soyez en pratique ce que vous êtes déjà devant moi. Quelqu'un a dit: la vie chrétienne, c'est de devenir ce que nous sommes déjà. Nous devons mourir parce que nous sommes déjà morts. Nous devons vivre parce que nous sommes déjà vivants. Nous devons conquérir parce que nous avons déjà gagné. Nous devons finir d'accomplir ce qui est déjà accompli. Et donc nous avons cette responsabilité, notre part à nous, c'est pas de gagner, mais c'est de nous consacrer à Dieu, de circoncire notre cœur, de nous livrer au grand chirurgien, d'être docile devant lui, et de lui dire: Dieu, fais de moi ce que tu veux, parce que c'est ce qu'il va faire. Si nous sommes prêts à le laisser faire. Et si nous vivons de cette façon, alors la vie chrétienne, elle est une vie d'abondance. C'est pas une vie monotone. On joue pas à aller à l'église. Ça devient une vie absolument passionnante. C'est une vie remplie de la puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu a pour nous. C'est ce que Dieu veut pour chacun, chacune de vous. C'est ce que Dieu veut pour moi. Et nous sommes là à dire oui, Dieu, mais à distance. Avant de pouvoir conquérir, de prendre du terrain, il faut que nous laissions le grand chirurgien circoncire nos cœurs. Ça va faire mal, mais ça va faire du bien. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir de cette façon? L'autre chose qu'il demande aux Israélites avant d'entrer en terre promise, c'est d'observer la fête de la Pâque. Il avait dit au verset 9, « J'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. » Et c'est pour ça qu'on a donné à ce lieu le nom de Gilgal. Gilgal, en hébreu, ça veut dire qui roule, qui fait rouler, quelque chose qui éloigne en roulant. C'est aussi le mot pour un cercle. La honte de l'Égypte, ça peut être une façon de parler du péché du monde. Ou ça peut être aussi ça peut faire référence peut-être aux moqueries des Égyptiens qui disaient « Oh, ce peuple d'Israël avec leur grand Dieu, ils tourneront dans le désert. » Et pour nous aussi, il est bon de savoir que les gens se moquent de nous. Mais que Dieu va rouler loin de nous la honte du monde. Mieux vaut être avec celui qui va gagner en fin de compte. D'être persécuté, moqué. Que d'être avec ceux qui vont finalement perdre en fin de compte. Vous devez être persuadé que Jésus-Christ va revenir, qu'il va remettre les choses en ordre, que tous ces gens qui se moquent de son nom, tous ces gens qui se moquent de la foi chrétienne, toutes ces fausses religions, toutes ces sectes qui racontent n'importe quoi, un jour s'agenouilleront devant lui. Il sera peut-être trop tard pour la plupart d'entre eux d'être acceptés par lui. Mais en tant que chrétien, vous devez être absolument persuadé que vous êtes du côté de la victoire. Amen. Et c'est vrai que de même qu'ils avaient négligé la circoncision, les Israélites n'avaient plus célébré la Pâque. Depuis la fois où ils l'avaient célébré avant d'être libre de partir d'Égypte, et la fois où ils l'avaient célébré sur le mont Sinaï lorsqu'ils avaient reçu la loi. Mais en fait, c'est eux-mêmes qui s'étaient exclus de la Pâque. Dans l'Exode 12:48, il était dit que aucun incirconcis ne pourrait manger de la Pâque. Autrement dit, si nous ne sommes pas circoncis, nous ne pouvons pas participer à la fête. Ils ne pouvaient pas célébrer la fête parce qu'ils avaient péché par incrédulité. Ils n'étaient pas circoncis. J'aime bien comment un de mes auteurs favoris, Alan Redpath, résume cette situation. Il dit, il ne peut pas y avoir de fête dans votre cœur s'il y a de la désobéissance dans votre cœur. Si peut-être aujourd'hui vous êtes triste, s'il n'y a plus d'étincelle dans votre regard, c'est parce qu'il y a de la désobéissance dans votre vie. De la désobéissance dans ma vie. Si je ne suis pas, si mon cœur n'est pas circoncis, je ne peux pas avoir cette joie abondante. Il ne peut pas y avoir de force non plus parce que Néhémie disait « La joie du Seigneur est notre force ». Et le problème de l'Église aujourd'hui, le problème de sa faiblesse, il vient de son manque de consécration. Il est surprenant de réaliser combien peu d'églises enseignent la parole de Dieu. C'est une des caractéristiques du mouvement Calvary Chapel d'enseigner à travers toute la Bible. Et quand on a connu ça, on pense que tout le monde fait ça. Mais en fait, beaucoup d'églises, Dieu merci, se servent de la Bible comme une base pour faire des sermons sur tel ou tel sujet. Mais encore bien plus, n'ont même pas aucune, ne font aucune référence à la Bible. Il y a beaucoup d'églises où on fait un peu de psychologie. Il n'y a pas de puissance. Il peut y avoir des fois des manifestations dans la chair. Mais il y a la désobéissance dans les cœurs. Les églises recherchent la puissance, l'argent. Et Dieu ne peut pas bénir celui qui se complaît dans la désobéissance. Oh, vous pouvez être sauvé, mais il n'y aura pas de puissance dans votre vie. Il n'y aura pas d'excitation, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de débordement de l'esprit dans le bon sens. Vous ne serez pas une source d'eau vive qui va désaltérer ceux qui sont autour de vous. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, chacune de nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est dès qu'ils ont obéi, alors le ciel s'est ouvert, ils ont pu célébrer la communion avec Dieu. Dès que nous sommes prêts à mourir à notre vieille nature, alors Dieu devient réel dans notre vie. Dieu peut déverser dans notre vie sa vie. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, ils font la fête. Ils célèbrent la Pâque juste devant leurs ennemis. Leurs ennemis sont affolés, cachés dans leurs murailles, pendant que les Israélites font la fête. Ils n'ont même pas réalisé qu'ils sont en convalescence, qu'ils pourraient peut-être les attaquer, ça serait le bon moment. Nous aussi, si nous sommes en relation intime avec Dieu dans l'obéissance, nous pouvons faire la fête devant le diable. Nous pouvons nous réjouir au milieu des pires difficultés. Et le verset du psalmiste devient une réalité. Tu dresses devant moi une table, psaume 23, 5, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Et puis la troisième chose, c'est qu'il leur demande de passer de la manne, la nourriture céleste, à la nourriture locale. Ils mangèrent des productions du pays, des pains sans levain. La manne, c'est ça le lendemain. La manne, c'était la nourriture que Dieu pourvoyait. Vous vous souvenez, ils se demandaient qu'est-ce que c'était en disant « Mana, Mana, qu'est-ce que c'est en hébreu ?» Et Jésus a dit « Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Jean 6, 48. « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. » il nous faut passer de ce qu'on vous donne comme nourriture à la nourriture que vous trouvez, que vous cultivez pour vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez pas vous contenter des sermons ou des études bibliques. Que vous devez apprendre, que vous devez commencer, si vous ne le faites pas déjà, à lire la Bible par vous-même, à recevoir vous-même des bonnes choses du Seigneur. C'est une des préparations pour pouvoir avoir cette vie de joie, de conquête. Jésus veut s'approcher de chacun de nous. Est-ce que je suis prêt à le laisser s'approcher? Il y a un verset dans Jacques qui dit que si nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Je vous ai raconté déjà l'histoire de ce couple américain. Ils avaient déjà un certain âge. Et en dépassant une voiture, ils voyaient un couple qui se tenait l'un contre l'autre. Et la femme disait, pensait avec émotion, un peu de nostalgie, et disait à son mari, je me rappelle le moment quand nous étions jeunes mariés où nous étions l'un contre l'autre quand nous conduisions en voiture. Et le gars lui dit, mais moi j'ai pas bougé, hein, je suis toujours au volant. C'est elle qui s'est éloignée. Jésus est toujours là. Il veut que nous venions près de lui. Si nous pouvions savoir comment il s'attend à ce que nous approchions de lui. Chaque matin, il est là, il prie pour nous. Et il dit, Thierry, viens vers moi. Il dit, Edwin, viens vers moi. Il dit, Leila, viens passer du temps avec moi. Nancy, viens passer du temps avec moi. Pierre, viens. Tu es pasteur, au moins. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de non-pasteur. Jésus veut être intime avec chacun de nous. Si nous cultivons cette relation avec lui, alors nous allons voir la maturité venir. La vie chrétienne, ça va être quelque chose de fantastique. Vous n'allez pas avoir du mal à parler de Jésus, ça sera évident. Mais qu'est-ce qui se passe en toi? Pourquoi est-ce que tu es toujours si excité, positif? C'est Cette semaine a été merveilleuse parce que j'ai été auprès de nombreuses personnes pour qui la vie chrétienne est une aventure fantastique. Des gens par qui le Seigneur a fait des choses absolument incroyables. Et tout ce qu'il demande, c'est que nous venions à lui, humblement. Prêt pour la chirurgie qu'il va faire. Prêt à la fête qu'il veut avoir avec nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous confier en ses mains? Prions. Seigneur, aide-nous à comprendre que tu as de bons plans pour chacune de nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être repris par toi, par ton Esprit Saint. Merci de nous montrer tout ce que tu as pour nous si nous sommes prêts à te faire confiance, Seigneur. Et Seigneur, c'est ma prière pour chacun de mes frères et sœurs, pour moi-même. De ce que nous soyons dociles entre tes mains. Que nous prenions le risque de nous faire opérer par toi. Avec confiance, Seigneur. Seigneur, nous te remettons nos vies. Aide-nous à les consacrer à toi entièrement. Aide-nous à entrer dans cette terre promise, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous lancer dans l'activisme chrétien avant d'être en règle devant toi, Seigneur, dans la paix d'une relation intime. Seigneur, si nous devons arrêter les activités pour revenir à tes pieds, aide-nous à le faire sans honte. Mais Seigneur, de grâce, aide-nous à recevoir de toi tout ce que tu as pour nous. La plénitude de ton Esprit Saint, tes dons spirituels, les fruits de ton Esprit. Merci Seigneur, parce que c'est ton désir. Te demandons ces choses au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Et tous les saints dirent Amen. Amen. Que le Seigneur vous encourage, qu'il vous donne une bonne semaine, qu'il vous aide à cultiver cette relation intime. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.